Il est 7h.
Tous les matins, retrouvez la matinale de Radio Campus, préparée et animée.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la matinale de Radio Campus présentée par les étudiants de l'Académie ESJ. Ici Tess à l'animation et je suis très heureuse de vous accompagner jusqu'à 8h sur cette matinale. Une matinale basée sur la science et l'intelligence artificielle à l'occasion de la fête de la science qui débutera demain. Toute l'équipe vous a concocté un programme aux petits oignons alors que vous soyez en train de déjeuner, toujours dans votre lit ou déjà au bureau. Montez le volume pour nous suivre durant cette heure. Autour de moi, une superbe équipe nous accompagne avec Adrien qui nous fera un petit tour d'horizon des actus.
Bonjour à tous.
Roman, tu nous expliqueras les nouveaux plans de Donald Trump dans le conflit israélo-palestinien.
Et oui Tess, il nous avait manqué ce lundi à Washington, Donald Trump a présenté un plan pour la paix à Gaza au Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou. Un plan que le Premier ministre déclare avoir accepté, même s'il a apporté en réalité plusieurs nuances. Je vous ferai un point complet sur la situation.
Merci. Gianelli, toi, tu nous présenteras ton billet d'humeur axé sur l'amour et la science.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé un billet d'humeur plutôt croustillant sur un sujet qui attise la curiosité de tous. Je sais, ce n'est pas encore la Saint-Valentin, mais j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'amour avec un grand A.
Nous pourrons ensuite écouter l'interview de Bianca sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein du ministère de la Santé.
Eh oui, bonjour à tous.
Les Lillois vont ensuite nous donner leur avis sur l'intelligence artificielle avec le micro-trottoir de Lilian.
Bonjour à tous. Tout à fait, les Lillois nous ont partagé leurs avis, parfois divergents, concernant l'intelligence artificielle.
Nous allons ensuite découvrir le reportage de Tina auprès des travailleurs de l'industrie créative.
Bonjour tout le monde.
Et enfin, Anaïs, toi tu nous présenteras les infos pratiques et culturelles des prochains jours.
Salut Tess, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, des températures fraîches mais de saison sont attendues sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Pas d'inquiétude, cela ne vous empêchera pas de tester nos sorties proposées dans les infos pratiques.
Et on n'oublie surtout pas Zadig à la régie et Claire à la réalisation de cette matinale. Alors préparez-vous pour passer une heure avec nous et on commence tout de suite avec le flash info d'Adrien.
Cappuccino, s'il vous plaît. Avec une bonne tasse d'actu.
Alors Adrien, qu'est-ce qui s'est passé durant ces dernières heures ?
Bonjour à tous, le Flash Info, c'est maintenant. Au sommaire aujourd'hui, nouvelle journée de mobilisation ce 2 octobre dans toute la France. Après le 10 et le 18 septembre, qui avaient rassemblé entre 500 000 et 1 million de personnes, l'intersyndicale espère faire au moins aussi bien aujourd'hui. On vous tiendra au courant sur l'avancée du mouvement tout au long de la matinale. Côté international, des manifestations ont également eu lieu de l'autre côté des Alpes cette nuit en Italie. Elles interviennent en réponse à l'interception des bateaux de la flotte humanitaire Global Sumud autour de 20h hier soir. Des manifestants ont paradé dans les rues et bloqué de nombreuses gares pour protester contre l'interception de la flotte. Le mouvement a été imité également en Espagne, en Grèce, mais aussi en France, nous y reviendrons. Hier soir, s'est éteinte Jane Goodall, la primatologue de 91 ans qui murmurait à l'oreille des chimpanzés, s'est éteinte, a annoncé la fondation qui porte son nom. Elle avait notamment découvert que ces primates utilisaient des outils dans leur quotidien. Côté sport, après la victoire de l'Olympique de Marseille mardi et celle du Paris Saint-Germain hier soir, le LOSC se doit de confirmer la bonne forme française en Coupe d'Europe ce soir à 18h45 face à l'AS Roma en Ligue Europa.
Alors la France est touchée par des grèves aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Eh oui, un nouveau mouvement social va agiter la France ce jeudi 2 octobre 2025. Après une rencontre jugée infructueuse avec le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, qui tarde à annoncer son gouvernement, plusieurs syndicats ont lancé un nouvel appel à la grève. Parmi les revendications, les coupes budgétaires proposées dans le budget de François Bayrou, la réforme des retraites et la défense du service public. La nomination de Sébastien Lecornu, l'un des plus fidèles d'Emmanuel Macron, a également été citée par certains, lui qui est jugé proche de l'extrême droite et homophobe, notamment à cause de l'un de ses anciens tweets, je cite, « Le communautarisme gay m'exaspère autant que l'homophobie ». Pour nos auditeurs qui souhaitent participer, le cortège partira comme à chaque fois à 14h30 de la Porte de Paris, avant de traverser le centre-ville pour rejoindre la Place de la République. Des perturbations sont à noter dans les écoles et les cantines, où de nombreux grévistes sont à recenser, mais également du côté des transports et de la SNCF. Côté Ilévia, aucune communication n'a été faite pour le moment.
La nuit a aussi été tourmentée au large des côtes palestiniennes.
Tout a commencé hier soir aux alentours de 20h lorsque la députée européenne Rima Hassan a annoncé sur X que les premiers bateaux de la flottille commencent à être encerclés. S'ensuit ensuite de nombreuses vidéos et photos d'arrestations postées sur les différents réseaux sociaux des gens présents à bord du convoi humanitaire, qui compte par exemple en son sein la militante Greta Thunberg. Le convoi humanitaire Global Sumud Flotilla, parti début septembre, a été intercepté par les forces israéliennes alors qu'il n'était qu'à une dizaine d'heures de navigation des côtes palestiniennes. En pleine zone internationale, 13 appareils sur 44 de la flottille ont été arrêtés et fouillés par les forces israéliennes. Le reste des bateaux tentent quant à eux de continuer leur route. De nombreuses manifestations en soutien ont ainsi été lancées dans plusieurs pays cette nuit. En Espagne, Allemagne, Grèce, France et Italie, ils sont des milliers à s'être mobilisés. La France Insoumise a d'ailleurs appelé un rassemblement en soutien ce soir à partir de 18h30 pour demander la libération immédiate des équipes et à la fin du génocide à Gaza. Plusieurs députés du même parti politique poussent également Emmanuel Macron à réagir face à ces arrestations. C'était l'ami des chimpanzés. Jane Goodall s'est éteinte ce mercredi 1er octobre à l'âge de 91 ans. Cette Britannique a approché durant sa jeunesse des chimpanzés comme personne ne l'avait jamais fait. Au milieu des primates, elle a appris à communiquer avec eux. Son travail et ses observations lui ont même permis de découvrir que les chimpanzés, utilisaient eux aussi des outils. Grande défenseur de la planète jusqu'à ses dernières heures, elle s'est éteinte alors qu'elle était en pleine tournée de conférences aux États-Unis, a indiqué sa fondation. Pour finir sur du sport, le Paris Saint-Germain s'est imposé hier soir en terre catalane face au FC Barcelone. Malgré l'absence du ballon d'or Ousmane Dembélé, le club de la capitale s'est imposé 2-1. Côté Lillois, premier choc ce soir en Coupe d'Europe face à l'AS Roma à 18h45. Les hommes de Bruno Genesio tenteront de confirmer après leur première victoire en Ligue Europa la semaine dernière. Les Niçois, eux, iront défier le club turc de Fenerbahçe, tandis que l'Olympique Lyonnais recevra le RB Salzbourg. Et puis hier soir, c'était la Super Coupe pour les guerrières de l'ESBVALM en basket. Les Villeneuvois se sont malheureusement inclinés face à l'ESK Prague, 77-86. Une défaite encourageante tout de même face aux vainqueurs de l'Euroleague 2025.
Merci beaucoup Adrien pour ces informations et maintenant toujours sur Radio Campus Canal 106.6. Et parce qu'il nous avait manqué, Roman va nous parler du président américain Donald Trump et ses nouveaux plans contre la guerre à Gaza.
Mesdames et messieurs, bonjour.
Madame, monsieur, bonsoir.
Madame, monsieur, bonjour.
Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité.
On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes.
La revue de presse.
Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez compris, ce lundi, Donald Trump a dévoilé son plan de paix pour Gaza. On va décortiquer tout ça ensemble, histoire de voir ce qu'il propose vraiment, comment ça a été reçu et ce qui se cache entre les lignes. Il s'agit d'abord d'un plan en 20 points, présenté comme une solution immédiate pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas. Le cœur du plan repose sur une promesse simple. Si les deux parties acceptent ce plan, je cite, « la guerre s'achèvera immédiatement ». Concrètement, cela signifie l'arrêt des bombardements dans la bande de Gaza et un délai de 72 heures donné au Hamas pour restituer tous les otages, vivants ou morts. On parle ici de 251 personnes enlevées le 7 octobre 2023, dont une vingtaine seraient encore vivantes. En contrepartie, Israël s'engagerait à libérer 250 prisonniers palestiniens condamnés à perpétuité, ainsi que 1700 détenus arrêtés depuis les attaques d'octobre. Mais aucun calendrier précis n'est annoncé. Autre point concernant la gouvernance du territoire palestinien, selon le plan qui est énoncé par Donald Trump, le territoire palestinien serait gouverné par une autorité transitoire palestinienne apolitique excluant le Hamas. Ce comité serait supervisé par un comité de la paix composé d'experts internationaux et de Palestiniens, présidé par les États-Unis, avec un rôle attribué à Tony Blair. L'objectif affiché, réformer l'autorité palestinienne pour qu'elle puisse reprendre le pouvoir. Le plan prévoit également une amnistie pour les membres du Hamas qui déposeraient les armes et accepteraient, je cite, « une coexistence pacifique avec Israël ». Autrement dit, ceux qui accepteront cela ne seront pas condamnés pour leur acte. Pour les civils, le plan précise officiellement que, je cite, « personne ne sera forcé de quitter Gaza, mais que ceux qui souhaitent partir seront libres de le faire et de revenir ». Une réponse directe aux menaces de déplacement forcé évoquées par certains ministres israéliens d'extrême droite. Sur le terrain maintenant, selon le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, plus de 66 000 Palestiniens auraient été tués depuis octobre 2023. Un chiffre jugé fiable, voire sous-estimé, par plusieurs ONG qui s'accompagnent d'une famine dramatique. 453 décès de faim dans l'enclave, dont 150 enfants. Le plan prévoit une aide humanitaire via l'ONU et le Croissant Rouge, sans, je cite, une interférence des deux parties. Mais sans retrait clair des troupes israéliennes, difficile d'imaginer une distribution efficace. Place aux réactions maintenant, le Premier ministre israélien a déclaré accepter le plan tout en y apportant plusieurs nuances.
Il insiste sur le fait que, je cite, « l'armée israélienne restera dans la majeure partie de Gaza, ce qui va à l'encontre de l'idée d'un cessez-le-feu total ». On précise également que si le Hamas refuse le plan ou ne le respecte pas, Israël, je cite, « finira le travail dans la bande de Gaza ». Le président américain, lui, affirme le soutenir le cas échéant. Plusieurs pays ont salué le plan du président américain, la France notamment. Emmanuel Macron a alors salué, je cite, « l'engagement de Trump pour mettre fin à la guerre et libérer les otages ». L'ONU, par la voix d'Antonio Guterres, appelle toutes les parties à accepter le plan. Le Hamas, de son côté, promet d'examiner le texte de manière, je cite, « responsable », mais les concessions demandées, désarmement et retrait du pouvoir, rendent une acceptation peu probable. Cependant, comme le souligne un chroniqueur du Monde, je cite, « ce que le plan de Donald Trump pour Gaza passe sous silence en dit beaucoup plus que ce qu'il propose ». En effet, ce plan contient de nombreuses zones d'ombre. D'abord, l'absence de date pour le retrait des troupes israéliennes. À noter que ce plan ne mentionne ni la reconnaissance d'un État palestinien, ni l'avenir de la Cisjordanie, toujours colonisée illégalement. Le texte soulève de nombreuses critiques. En effet, selon plusieurs experts, ce plan de paix contient aucun compromis majeur pour Israël et son Premier ministre. Selon le New York Times, il répond même à, je cite, « une grande partie de ce qu'il souhaite ». Enfin, une contradiction à souligner, le plan s'éloigne nettement d'une image véhiculée récemment par Donald Trump lui-même, celle d'une French Riviera à Gaza, générée par intelligence artificielle, où l'on voyait Donald Trump et Benjamin Netanyahu sur la plage. Il s'agit ici d'une négociation et de discussion. On vous tient très vite au courant sur Radio Campus des avancées des discussions, avec la réponse du Hamas qui ne devrait plus tarder.
Eh bien, ce sera un sujet à suivre dans les prochains jours. Merci beaucoup, Romane. Maintenant, pour un peu plus de légèreté, nous vous proposons d'écouter la chanson aux plus de 2 milliards de streams du groupe Coldplay, The Scientist, que vous connaissez probablement tous. c'était The Scientist de Coldplay. Vous êtes toujours sur la matinale de Radio Campus présentée par les étudiants de l'Académie ESJ. Et c'est maintenant au tour de Gianelli qui va nous présenter son billet d'humeur alliant science et amour. Alors, si vous pensez que la science ne peut pas vous aider à trouver l'amour, peut-être que Gianelli et l'émission Love is Blind de Netflix vont vous faire changer d'avis.
Allez, second poteau, pas mal.
Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Le billet d'humeur, c'est maintenant.
Chères auditrices et auditeurs, si je vous pose la question « L'amour est-il aveugle ?», quelle serait votre réponse? C'est ce que Netflix a expérimenté depuis quelques années, en produisant l'émission Love is Blind. Après plusieurs succès à l'international, avec Love is Blind États-Unis, Love is Blind Brésil ou encore Love is Blind Royaume-Uni, il était peu probable que la plateforme américaine oublie notre cher pays, la France, le pays de l'amour, le pays de la romance. Et c'est donc avec joie que je vous annonce que Love is Blind France, ou plutôt Pour le meilleur et à l'aveugle, est disponible sur Netflix depuis le 10 septembre. Alors, avant de continuer cette chronique, je me dois de mieux vous expliquer le but et le fonctionnement de cette émission. Et ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil, je n'oserai pas. Tout d'abord, pour ceux qui ne seraient pas bilingues ou à l'aise en anglais, Love is Blind se traduit par « L'amour est aveugle ». Le principe est simple. Tomber amoureux d'une âme et non d'un corps. Je sais, c'est beau ce que je viens de dire. Je vais un petit coup de pouce de Victor Hugo. Durant une petite semaine, les candidats participent à plusieurs speed dating. Ils discutent dans des capsules séparées d'un mur. C'est-à-dire que lorsqu'ils communiquent, ils ne se voient pas. Pendant leur discussion, ils se présentent, se mettent en avant, parlent de leurs valeurs, leur vision du mariage, et ils évitent normalement de mentionner des détails sur leur physique, car cela pourrait influencer certaines décisions et cela va à l'encontre de l'émission. Car lorsqu'ils ont une connexion, entre guillemets, l'homme fait une demande de fiançailles à la femme, et si elle accepte, ils peuvent enfin se rencontrer face à face. Ensuite, ils ont un mois pour décider s'ils se diront oui ou peut-être non. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi, Gianelli, tu nous parles de Love is Blind. Eh bien parce que je suis une grande fan de cette émission. Il y a tout ce que j'aime pour me divertir. Des embrouilles, des moments mignons et des moments très 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 gênants qui me font extrêmement rire. Mais bon, je vais redevenir un peu sérieuse car tout le long de l'émission, on se rend compte que même si les gens veulent trouver l'amour en allant au-delà du physique, l'apparence a son importance. Donc je me suis posé la même question qu'à vous. L'amour est-il aveugle? J'ai donc fait mes petites recherches. Et je vais vous partager ce que j'ai retenu de ma lecture d'un article du site internet Nos Pensées, qui publie du contenu sur la psychologie, le bien-être ou encore sur la santé mentale. Selon eux, l'attirance physique ne dure pas. Elle est intense, vide et fugace. Alors que l'amour authentique entre deux personnes se base sur une compréhension qui est mutuelle. C'est-à-dire, plus on se comprend, plus on comprend les intentions et les sentiments de quelqu'un, plus l'attirance est forte. Pour une relation durable et heureuse, les partenaires doivent continuellement se comprendre, donc décoder les émotions de leur conjoint pour pouvoir ensuite agir en conséquence. Dans l'article, un exemple est donné. Si la personne aimée est fatiguée, l'autre a normalement compris que sa journée a été difficile, donc sans avoir besoin de lui demander, il décide de préparer un bain chaud et un dîner spécial pour lui faire plaisir. C'est une harmonie émotionnelle et intime où le vocabulaire neuronal parle la même langue. C'est peut-être pour ça que certains couples de Love is Blind ne tiennent pas. Ce ne serait pas une question de physique, mais plutôt de compréhension. Le dernier épisode sort dimanche, donc je préviens tout le monde. Si vous m'appelez, je ne répondrai pas, désolé. Je serai devant ma télé en train de manger mes pop-corns. Merci de m'avoir écouté, c'était Gianelli sur Radio Campus.
Merci beaucoup Gianelli. Alors peut-être que la solution pour trouver l'amour, c'est de confier notre destin à la science. Et pour continuer sur ce thème de l'amour, on va s'offrir une petite pause musicale avec Baby Love du groupe The Supremes.
Stay away so long, 'cause baby love, my baby love,
C'était The Supremes avec leur fameuse chanson Baby Love. Maintenant, pour retourner sur notre thème du jour, la science, nous allons écouter l'interview de Bianca, qui est allée à la rencontre de Madame Baudet, travaillant au ministère de la Santé. Elle a expliqué comment ils utilisaient l'intelligence artificielle pour la guérison de certaines maladies et la recherche.
Moi, je suis favorable à l'approche expérimentation-évaluation.
Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle ?
Pas simplement quand je me rase.
Ah, vous êtes devenu chiant.
Politique, actu, société, tout de suite, c'est l'heure de l'interview.
Hello !
Hello !
C'est comme ça que notre entretien commence avec Gladys, qui travaille pour le ministère des Solidarités et de la Santé sur un modèle d'intelligence artificielle prédictif afin de prévoir des événements dans la suite des parcours de soins des patients. Hospitalisation, diagnostic, traitement. Car aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ou IA, c'est ça. C'est l'innovation. Et si elle permet des évolutions majeures en science, Gladys, elle, me permet de mieux saisir ce sujet complexe. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Et ton métier ?
Je m'appelle Gladys, je travaille au ministère de la Santé et je suis ingénieure informatique. Et je travaille sur plein de sujets très différents les uns des autres parce qu'il y a assez peu de gens qui ont mes compétences là où je travaille.
Aujourd'hui, on va parler d'un projet qui est assez révolutionnaire, que tu développes avec une équipe qui lie intelligence artificielle et médecine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Du coup, là où je travaille, donc au ministère de la Santé et en partenariat avec l'INRIA.
Alors, petite intervention, l'INRIA, c'est l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique.
On essaie de réutiliser des modèles de langage qui existent, un peu comme ChatGPT, mais au lieu de leur donner des mots, on leur donne des codes médicaux. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, de la même façon que ChatGPT, il va un peu prévoir, enfin le modèle qui est derrière, il prévoit les prochains mots qu'il va pouvoir te proposer. Et ben là, ce modèle-là devrait pouvoir proposer les prochains codes médicaux qui vont apparaître pour une personne. Un code médical, ça peut représenter plein de choses. Ça peut être par exemple un médicament, du Doliprane. Ça peut être un acte médical. Est-ce que cette personne a fait une radio, par exemple ? Est-ce que cette personne a vu un spécialiste d'une certaine pour un certain problème, s'il a du diabète par exemple, enfin, voilà. Et grâce à ces informations et de l'ordre dans lequel ils apparaissent, on se dit qu'il y a un lien en fait et qu'on va être capable de prédire quel va être son prochain code. Donc selon l'historique médical d'une personne, on va essayer de pouvoir prévoir si elle va être hospitalisée dans les 6 prochains mois, enfin, quel est le risque qu'elle ait tel problème médical ou qu'elle aille voir tel type de spécialiste.
Donc il y a plusieurs applications, mais le but c'est de tendre vers un développement thérapeutique ultra personnalisé, un suivi rapproché du patient, ou plutôt d'essayer de prédire l'évolution d'une pathologie qui est donnée, son dépistage, son évolution, les traitements.
Ouais, bah alors du coup il y a un peu différentes possibilités qu'on regarde. La première, c'est quelque chose que l'assurance maladie fait déjà. C'est, ils font du dépistage organisé, c'est-à-dire qu'ils envoient des invitations pour se faire dépister pour certaines maladies à des groupes très très grands. Et dans ces groupes, c'est quelque chose qui coûte assez cher à l'assurance maladie. Et on se dit, en fait, si on peut mieux cibler les gens qui sont à risque d'avoir ce type de pathologie, ça peut réduire le nombre d'invitations que l'assurance maladie a à envoyer, par exemple. Là, ça pose quelques problèmes parce que on n'est pas sûr de comment le modèle choisit les gens qui va cibler. Donc pour ça, on a une partie de l'équipe qui travaille sur l'explicabilité du modèle. Okay. Pourquoi une personne va être ciblée et pas une autre pour certains cas d'application. Et on va travailler aussi sur l'équité du modèle, parce que en fait ça peut paraître un peu évident, mais les différentes classes sociales n'ont pas recours de la même façon aux soins, au système de soins. Et du coup, le modèle, lui, ne sait pas si la personne est de telle ou telle classe sociale. Et donc, on a un peu... c'est pas peur, mais ce qu'on essaie de corriger, du coup, en ce moment, c'est... On veut pas que les seules personnes dépistées, ça soit les gens qui sont allés voir le médecin régulièrement. Et que... Parce qu'ils savent qu'il faut aller voir le médecin régulièrement. Alors que d'autres, bah, ils peuvent pas forcément aller voir le médecin régulièrement. Et donc, le modèle se dit, bah, c'est bon, ils vont bien.
Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le ciblage, c'est ça ? Entre autres.
Donc, le ciblage, c'est vraiment ouais, sur la population, quelles sont les X personnes qui sont les plus à risque de développer telle pathologie,
okay.
De telle maladie.
Et du coup, le modèle, donc là, c'est pour les personnes qui ciblent, mais pour son utilisation, vu que c'est pour l'optimisation des soins, c'est plutôt pour les spécialistes, les médecins généralistes, les...
Ça va être un peu tout.
Okay.
En fait, c'est un modèle qui est très généraliste pour l'instant,
mm-hmm.
et qui peut être utilisé un peu individuellement sur différents types de pathologies. Nous, on va un peu fournir le modèle tel qu'il existe, et c'est plutôt les équipes d'analyse de données des différents hôpitaux qui vont s'occuper de les rendre utilisables par les professionnels de santé.
Quel futur est-ce que tu espères, toi, pour ce modèle ? C'est un peu flou, mais est-ce que tu espères le voir partout ?
Alors, j'espère le voir partout. J'espère pas le voir partout. En fait, ce modèle, pour le coup, je le vois vraiment comme un peu un outil d'aide à la décision. Parce qu'en fait, il y a quand même un vrai problème en ce moment, c'est que les médecins ont beaucoup, voire trop de patients, notamment à l'hôpital où c'est quasiment ingérable et c'est très très difficile de faire du suivi parce que tellement de monde qui passe et où ils connaissent pas forcément l'historique de la personne et voilà, bah juste qu'ils puissent savoir quelles personnes sont à surveiller de plus près, à peut-être garder 2-3 jours de plus. Je dis pas que c'est possible là tout de suite parce qu'encore une fois on est sur le développement du modèle et voilà, mais je le vois vraiment comme plutôt de la même façon que tous les jours l'infirmière elle vient prendre ta tension quand t'es hospitalisé pour avoir une information sur comment tu vas, et bah t'aurais à côté ce modèle qui te dit bah vu la tension qui a été prise et les dernières prises de sang, il est possible qu'il y ait qui se déclenche dans 10 jours, dans un mois, dans l'année. Donc prévoyez un nouveau rendez-vous ou alors prévoyez un nouvel examen.
Et voilà, c'était tout pour mon interview. Un grand merci à Gladys Baudet. J'espère que ça vous aura plu. On espère voir ce projet se développer, évidemment. En tout cas, une chose est sûre, nous n'avons pas fini d'entendre parler de l'IA dans le domaine médical.
Eh bien, merci beaucoup, Bianca. C'est donc une utilisation très particulière de l'IA, mais qui pourrait nous amener à de grandes avancées. Vous le saviez probablement, mais de nombreux artistes utilisent aussi l'IA pour créer ou reprendre des chansons, et c'est le cas de David Guetta, qui a d'ailleurs fait chanter Eminem pendant un concert grâce à cet outil. On s'écoute d'ailleurs une de ses reprises pour vous mettre dans le bain de ses futurs concerts au Stade de France. C'était David Guetta, on espère que vous avez apprécié. On est jaloux de tous les petits chanceux ayant eu leur place pour ces concerts au Stade de France en juin prochain. Plus sérieusement, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais on aimerait connaître l'avis des Lillois sur ce sujet. Et Lilian, tu es allé à leur rencontre.
Une chose est sûre, entre avancées technologiques ou scientifiques, utilité quotidienne et abus potentiel, l'intelligence artificielle interroge. J'ai donc été à la rencontre des Lillois pour connaître leurs usages personnels de l'IA. Ils m'ont également partagé la manière dont ils la perçoivent, que ce soit pour en reconnaître les mérites, mais aussi pour exprimer des craintes vis-à-vis de cet outil dont certains aspects échappent encore à notre compréhension.
Que pensez-vous?
Je comprends ce que vous dites, mais moi je pense que...
À mon avis...
Bah moi je crois que...
Moi je pense que...
C'est l'heure du micro-trottoir.
Est-ce que vous utilisez régulièrement l'intelligence artificielle, que ce soit personnellement ou côté professionnel?
De temps en temps, mais très peu.
J'utilise plutôt ChatGPT pour mes devoirs.
En vrai, j'utilise assez rarement. J'utilise plus, c'est surtout pour aider au niveau des devoirs, surtout dans l'explication de consignes que je comprends pas, ou pour chercher des infos vraiment précises quand il y a trop d'informations sur Internet classique.
ChatGPT, genre quand j'ai des idées de concept ou de vidéos, je lui demande et elle me sort un script.
J'utilise ChatGPT, mais par exemple pour des reformulations, par exemple si j'ai besoin qui m'aiguille un peu, ou pour des plans, mais jamais pour avoir tout en entier, quoi.
Sur le plan, des fois des petits soucis, des petits trucs, enfin des... mais plus aussi en cours.
Je m'en sers comme plutôt, je me servirai d'un logiciel de requête sur Internet, par exemple.
Bah, c'est un outil, et en tant qu'enseignant, il faut apprendre aux élèves à s'en servir, à comprendre comment ça marche déjà, et à s'en servir, parce que pour l'instant, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ce que peut l'intelligence artificielle. Je ne m'en sers pas encore dans ma pratique, mais je vais me former justement pour savoir comment arriver à l'utiliser, et faire comprendre aux élèves comment ça peut être, peut y avoir une utilisation intelligente.
Quelle est votre perception vis-à-vis de l'IA, est-ce que vous pensez que c'est qu'une plus-value ou est-ce qu'il peut y avoir des limites, des défauts?
Il y a un risque d'abus comme tout nouvel outil, nouvelle technologie. Maintenant, ça nous oblige nous aussi à changer nos pratiques, notamment le travail à la maison, par exemple, évidemment, ne peut plus être envisagé de la même façon.
Je pense que c'est ça peut être un appui, une aide forte. Peut-être se substituer à des tâches rébarbatives dans la vie d'un humain. Ça peut rapporter, je pense, une fluidité et une facilité dans beaucoup d'usages. Dans les hôpitaux, c'est un enjeu énorme. Le développement des intelligences artificielles, je dis des intelligences artificielles parce qu'il y a plusieurs types. On sait que dans, par exemple, la phase diagnostique, les radios ou certains autres examens biologiques, ça peut être extrêmement porteur, en fait, hein, d'avoir ce type d'outils.
Il faut les réguler. Il y a des très bonnes choses et des très mauvais usages qu'on peut en faire. Dans la médecine, ça fait faire des progrès et ça ouvre des possibles incroyables. Mais je pense que de la même façon, ça peut ouvrir des possibles incroyables avec les usages.
Moi, je pense que c'est assez pratique, mais il y a des limites. Déjà, ça dépend pourquoi on l'utilise et comment on l'utilise, je pense. Quand il y a trop de personnel ou avec les photos, c'est trop personnel.
Et est-ce que vous avez des craintes vis-à-vis de l'évolution de l'IA, la tournure que ça prend?
Bah, quand on voit tout, les voix, les personnes, tout qui sont modifiées, enfin voilà, après, où est le réel?
Sur TikTok, t'as des fausses interviews de BFM, tout ça là. Et c'est des fausses informations, c'est encore plus dangereux. En plus, c'est très très bien fait, du coup, c'est difficile de dissocier le vrai du faux.
Moi, personnellement, je pense niveau musique, où beaucoup maintenant utilisent la IA, enfin, on perd ce côté-là, le côté vraiment humain.
Bah, ça enlève tout ce que nous, on sait faire.
Ouais, exactement.
Il y a tous les savoirs, et du coup, c'est limite, il est mieux que nous. Enfin, je sais pas, mais moi, je trouve que ça a vraiment des limites, et en plus, ça consomme tellement que c'est pas possible de continuer comme ça.
De mon point de vue, c'est bien, mais il faut pas en abuser, parce que après, ça prend déjà la place de certains humains. On peut le voir déjà en Chine, il y a des robots qui se baladent, il y a des chiens robots. Ça peut aller très vite, la transition. Pour prendre tout dans son ensemble, l'IA, c'est une bonne avancée, mais il ne faut pas l'utiliser pour faire du mal.
Les avis sont donc toujours mitigés sur cet outil prenant de plus en plus de place dans notre société. Merci beaucoup, Lilian. Pour un peu plus de douceur ce matin, on vous propose d'écouter un joli morceau de piano du compositeur roumain Yanis Xenakis. C'était la composition de Yanis Xenakis, utilisant aussi un petit peu d'intelligence artificielle. On espère que vous avez aimé ce joli morceau. Vous êtes toujours sur la matinale de Radio Campus des étudiants de l'Académie l'ESJ sur le thème de la science aujourd'hui. Et pour honorer ce thème, Tina, tu nous as concocté un reportage sur les enjeux que pose l'intelligence artificielle face aux métiers des industries créatives.
De grands reporters.
Vous êtes grand reporter.
Comme dans toute histoire, je crois, il y a une part de vérité.
Alors oui, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de l'impact concret de l'intelligence artificielle sur les professions créatives et culturelles, notamment sur le graphisme, l'animation ou encore la musique. Et j'ai pu discuter avec Eléa, Nathan et Ethan, concernés directement par ces mutations, et dont vous allez entendre les différents points de vue. L'environnement s'articule autour de productions créatives à la fois visuelles et sonores. Mais derrière ces réalisations se trouvent de nombreux acteurs spécialisés. Le secteur des industries culturelles et créatives est aujourd'hui fortement marqué par des concurrences dans la course à la productivité. Et c'est à ce moment-là que l'IA entre en jeu, bouleversant tout un écosystème humain. Eléa, motion designer et monteuse vidéo, a constaté des changements liés à ces nouveaux outils dans sa profession.
L'IA est apparue dans mon métier il n'y a pas longtemps, en fait. C'est tout simplement des mises à jour de logiciels qui se font. Et ces petites particularités qui apparaissent dans les logiciels, on les voit directement car les gens en font la promotion et les mettent en avant. Moi, l'IA, je m'en sers au quotidien, je ne vais pas le cacher. Ça permet de gagner du temps. C'est pratique sur plein de fonctionnalités, mais je pense que ça ne remplacera jamais l'humain parce que l'IA, elle n'a aucune émotion. Donc, on peut l'utiliser, mais elle ne pourra pas nous remplacer. C'est une économie d'utiliser l'IA, mais à côté, il y a des gens qui font ces métiers-là. Et si on ne fait plus vivre ces personnes-là, et derrière, on va perdre toute la créativité humaine et ça va être un robot qui va nous remplacer. Et en fait, il n'y aura plus rien d'intéressant et tout va se ressembler puisque le robot, il n'a pas d'émotion, il n'a pas de parcours, pas d'expérience. Donc en fait, il n'y a pas d'intérêt quoi, à utiliser l'IA.
Nathan est infographiste et spécialiste du film d'animation et des jeux vidéo. Il déplore la direction vers laquelle nous mène l'IA, notamment depuis sa période d'études, il y a 5 ans. Entre autres avec des logiciels de production et l'apparition d'un nouveau type d'IA.
Donc globalement, en fait, sur tous les logiciels, en quelques années, en fait, on a eu pas mal d'évolutions. On a eu d'abord des petits outils en fait, qui ont été ajoutés sur différents logiciels. Et après, au fur et à mesure, le logiciel a pris ma base sur nos compétences en tant qu'infographiste. Ça allège la quantité de travail et la quantité de production. Donc aujourd'hui, on estime qu'on gagne du temps dans certaines productions au détriment des compétences des techniciens et des gens formés à ces sujets-là. Aujourd'hui, on a plein d'émergences de nouveaux logiciels qui sont empruntés de plus en plus par des nouveaux studios. Donc ChatGPT et tout ça, c'est pour plus des compétences scénaristiques, mais il y a aussi l'intervention des IA génératives d'images. Dans un premier temps, c'était des premières images qui ne donnaient pas trop de résultats concluants, qui ne sont pas exploitables dans l'industrie. Et au fur et à mesure, en fait, on a eu des images de plus en plus concrètes qui ont établi différents styles via des banques de données. Il y a aussi la vision en fait, de la constante évolution de l'IA. En fait. Aujourd'hui, on est capable de générer des images et des courtes vidéos de 30 à 1 minute. On voit que c'est le début de l'émergence, donc on se dit que dans allez, une dizaine d'années, on va réussir à faire 30, peut-être 40 minutes de pure vidéo animée. Mais de toute façon, on ne peut pas être 100% optimiste sur l'avenir, sachant que si on parle d'un biais purement productif, aujourd'hui, les industries, ça coûte des millions d'euros. Si on peut gratter encore des millions d'euros sur une production, on va préférer forcément jouer l'économie.
Le récent engouement autour de la polémique de Spotify accusé de promouvoir de faux artistes générés par IA relance aussi les questionnements sur le lien entre cette technologie et le secteur musical. Ethan est en école de technicien son, il fait aussi de la musique sur logiciel et critique le nouvel outil qui vient bouleverser les productions musicales.
Là dernièrement, il y a pas mal d'outils qui sont apparus dans le milieu de la musique. Un exemple en tête là, c'est des outils qui servent à mixer ou masteriser des morceaux tout seul. Ça t'enlève en gros une partie complète de ton travail, sauf que c'est pas fait par un humain, du coup il manque clairement une patte artistique. Et c'est jamais vraiment bien fait et ça correspond surtout jamais aux attentes que toi tu as, parce que c'est pas toi qui le fais. Le résultat, je le trouve vraiment naze à chaque fois. Ça demande un effort de le faire soi-même, mais ça vaut vraiment le coup. Je pense pas que ça supprimera des métiers, parce qu'il y aura toujours un savoir-faire humain qui sera toujours mieux que l'IA, j'en suis sûr, pour la musique en tout cas. L'IA actuellement, elle fonctionne avec du machine learning. En gros, on donne du contenu à l'intelligence artificielle pour la nourrir et qu'elle puisse recréer ensuite le contenu qu'elle a vu. Sauf que le problème, c'est que le contenu avec lequel on nourrit, c'est un contenu qui est vraiment créé par des artistes et qui n'ont pas du tout cette vocation-là. Et surtout, il n'y a pas cette notion de consentement. Souvent, on ne demande pas aux artistes... Si aujourd'hui je vois un artiste que je connais et je regarde sa chaîne YouTube qui a un clip qui est entièrement fait par une IA, c'est nul parce que déjà ça aura pas vraiment d'âme, un contenu artistique, alors que c'est tout le principe de l'art, que ça soit fait par un humain. Ou alors, pas forcément par un humain, mais qui est un humain impliqué dans le processus, et avec l'IA je pense qu'on s'éloigne de plus en plus de ça et c'est bien dommage.
La place grandissante de l'IA est crainte par les acteurs du secteur, qui partagent en majorité un regard inquiet quant à l'avenir des emplois et le maintien d'une qualité intrinsèquement liée à la sensibilité humaine qui reste insaisissable pour un algorithme.
Merci beaucoup Tina pour ce reportage qui nous montre encore une fois la place importante de l'IA dans le monde du travail. Maintenant, afin de s'ambiancer un peu en ce début de journée, on vous propose d'écouter le titre de la superbe Théodora, Il me rit tout sonné.
Qui me manque.
Théodora avec son titre Il mérite tout sonner. On espère que vous avez aimé parce que nous, on s'est bien ambiancé pendant cette pause musicale. Enfin, pour finir sur une note un peu plus légère, voici les infos pratiques et culturelles. Alors, si vous n'avez rien de prévu pour ces prochains jours, écoutez ce programme alléchant présenté par Anaïs.
Oui, oui, c'est bien ça, c'est l'heure des infos culturelles maintenant.
Ce matin, l'ambiance est plutôt grise sur le Nord-Pas-de-Calais avec un ciel voilé. Les températures restent fraîches mais douces pour la saison. 13 du côté de Ranchy, 14 degrés à Arras et Dunkerque et jusqu'à 15 degrés à Lille. Dans l'après-midi, le voile nuageux persiste mais la douceur s'installe. Comptez 16 degrés à Avesnes-sur-Helpe, 17 degrés à Cambrai et Valenciennes, 18 degrés vers Calais ou Saint-Paul-sur-Ternoise et un maximum de 19 degrés à Lille, Hazebrouck ou encore Dunkerque. En soirée, les nuages se densifient et les températures redescendent doucement. 15 degrés sont attendus à Lille, 14 degrés à Lens, 13 à Béthune et un peu plus frais du côté de Bapaume avec 12 degrés. La nuit reste couverte, les minimales varieront entre 10 et 14 degrés, plus fraîches à l'intérieur des terres avec 11 degrés à Béthune et Saint-Paul-sur-Ternoise, 12 degrés à Montreuil-sur-Mer, alors que la Côte d'Opale et la métropole lilloise resteront un peu plus douces, autour de 13 degrés. Chers auditeurs, avez-vous un talent que vous rêvez de faire découvrir? C'est votre jour de chance, car aujourd'hui à Lille, de 19h à 22h, sur la scène du musical, vous pourrez vous produire devant un public. Tous les talents y sont attendus. Pas d'inquiétude concernant le matériel, car sur place, vous pourrez retrouver une sono, une table de mixage et un micro sur pied. Vous pouvez évidemment ramener le reste de votre matériel. Toutes les informations sont disponibles sur le site de l'Office du Tourisme de Lille. Si vous n'êtes pas disponible le jeudi, je vais vous proposer des idées de sortie pour ce vendredi 3 octobre. De midi à 13h30, vous pourrez assister à une visite guidée pour découvrir les coulisses des Archives nationales du monde du travail à Roubaix. Cette ancienne filature mode bossu construite à partir de 1863 accueille les Archives nationales du monde du travail depuis 1993. Vous serez accompagné d'un agent des archives pendant toute votre visite et vous verrez les accès normalement fermés au public. Pour cette visite, il vous faudra réserver sur le site réservation.lilletourisme.com ou dans les antennes de l'Office de tourisme métropolitain. À Seclin maintenant, et toujours pour ce vendredi 3 octobre, vous pourrez assister à un concert dans le cadre de Fiesta Lille 3000 avec d'abord l'interprétation d'une balade nocturne, puis des musiques à faire danser le public. Le tout interprété par l'Orchestre d'harmonie du Centre municipal d'expression musicale. Alors rendez-vous 220 rue de l'Artisanat à Seclin de 20h à 21h30. Un joli programme de sortie vous attend et bonne nouvelle, même si la météo fait des siennes, les rendez-vous, eux, sont bel et bien maintenus.
Merci beaucoup Anaïs, on espère, chers auditeurs, que vous avez trouvé une superbe activité à faire. Pour finir la matinale en beauté, on vous propose d'écouter The One Two du groupe de rock français Skip the Use. She's the one.
Ensuite c'est les larmes, en vrai tu connais les bails. Et puis on défilera les images.
has time to breathe. She's the one to share a life with. I know it's time to breathe. She's the one.
C'était Skip the Use avec leur titre The One Two pour finir cette matinale, car chers auditeurs, chères auditrices, il est temps pour nous de vous laisser. On espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. En tout cas, nous, on a bien profité à vos côtés. Si vous êtes arrivés au cours de la matinale ou que vous souhaitez nous réécouter, n'hésitez pas à aller sur le site campuslille.com pour écouter toutes les matinales. Vous retrouverez demain une nouvelle équipe des étudiants de l'Académie ESJ pour la matinale de Radio Campus, canal 106.6. Merci à toute l'équipe de cette matinale, Adrien, Romane, Janelli, Bianca, Lilian, Tina et Anaïs pour vos superbes chroniques. Et on n'oublie surtout pas Zadie qui a géré la régie aujourd'hui et Claire à la réalisation, sans qui cette émission n'aurait pas été possible. Merci aussi à vous, auditeurs et auditrices. Avec toute l'équipe, nous vous souhaitons une agréable journée. À bientôt sur Radio Campus.
Matinale de Radio Campus, on se retrouve demain, 7h.
In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.